Bonjour et bienvenue. Les rendez-vous du droit sont aujourd'hui consacrés au discours de la méthode et donc aux exercices qui sont ceux que subissent tous les étudiants en droit au cours de leurs études de droit. Nous allons parler du comment faire ces exercices, mais également quelle est leur utilité. Quelle est leur utilité pour demain, pour les épreuves, mais surtout pour après-demain, quand vous serez dans la vie professionnelle. Pour aborder ce sujet, ce discours de la méthode, je suis comme d'habitude accompagné, et je suis accompagné de vous, Maëva, que les étudiants connaissent, mais ils seront ravis, pour ceux qui nous connaissent moins bien, de savoir qui vous êtes de nouveau.
Donc, bonjour, je suis Maëva Etchaman. Je suis actuellement doctorante en droit privé à l'université Panthéon-Sorbonne. Et je suis coordinatrice de l'équipe pédagogique pour vos travaux dirigés, mais également coordinatrice du projet numérique pédagogique.
Et oui, et du coup, nous correspondons beaucoup, mais donc, je reçois beaucoup de courriels de Maëva, mais j'ai toujours beaucoup de plaisir à les lire. Ils sont rédigés dans une langue tout à fait parfaite, certainement plus parfaite que l'humain. Alors, on est accompagné aussi de Ingrid. Alors, vos étudiants vous connaissent, mais l'ensemble des étudiants ne vous connaît pas encore. Qui êtes-vous ?
Oui, donc bonjour à tous. Donc, je m'appelle Ingrid Rosedal, je suis donc ATER, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et je suis donc également doctorante en quatrième année de thèse. Et mon sujet de thèse porte sur l'inopposabilité des exceptions. Donc, sujet passionnant, mais sujet assez difficile quand même, assez technique, dont je vous passerai la description parce que c'est vraiment un sujet qui nécessite des connaissances de troisième année, voire de master 1, voire de master 2.
On peut y arriver en fait, mais ça nous prendrait déjà trop de temps. Voilà, mais voilà. C'est un très beau sujet, c'est un grand classique. C'est vrai que c'est difficile. Ma thèse en 10 secondes, on n'y arrivera pas. Sur un sujet aussi technique et aussi pointu, ça ne passera pas. D'autant qu'on a des petites choses à voir, mais c'est très intéressant. On a des petites choses à voir plus urgentes, plus prosaïques. Les trois exercices, le cas pratique, le commentaire et la dissertation. Et tout de suite, sans attendre, nous commençons par le cas pratique. Le cas pratique, qu'est-ce que c'est un cas pratique ? C'est une petite histoire qu'on vous raconte dans une fiche de travaux dirigée, sur une copie, sur un sujet d'examen. Et à la fin de cette petite histoire, on vous pose des petites questions qui ont une coloration juridique. Et il va falloir y répondre en suivant une certaine méthode. Quelques conseils généraux à donner à nos étudiants lorsque... Bah oui, allez-y.
Bah alors, vous pouvez, lorsque vous envisagez un cas pratique, vous pouvez vous mettre à la place d'un praticien du droit.
Oui.
Suivant la formulation de la question, soit d'un avocat, soit d'un magistrat, ça vous donne déjà une première idée de comment aborder cet exercice.
Oui, bien sûr, vous pouvez aussi vous mettre dans la position simplement de vous-même, on va dire, c'est un de vos amis qui vient vous voir, qui a une question de droit qui lui est arrivée dans la vie, et il sait que vous faites des études de droit, et donc il vous demande des conseils. Voilà. Et il veut que vous l'aidiez à résoudre son problème.
Oui. Alors aussi, point supplémentaire, souvent, quand on a bien révisé et qu'on lit le cas pratique, on a l'impression d'avoir tout de suite la solution. Ça peut être la bonne, mais il faut prendre le temps de la mettre de côté pour ensuite, et après le travail que nous allons voir de préparation, s'assurer que c'est bien la bonne et qu'on n'a pas raté un des éléments du cas pratique.
Alors, pas de précipitation.
Voilà, on ne se précipite pas parce qu'il y a un temps de préparation avant celui de la rédaction. Oui. Bon, et sur la préparation, qu'on peut appeler, je dirais, la phase brouillon, qu'est-ce qu'on fait
Donc vous lisez l'énoncé qui vous est donné dans le sujet, et vous allez repérer les éléments pertinents.
Oui. Et ensuite, qualifier ces éléments. Même, l'énoncé est dans un langage courant.
Exactement. Voilà.
Et donc, il ne faut pas...
Il ne faut pas se laisser emporter par ce langage courant, mais vous devez faire une opération de qualification juridique. En d'autres termes, vous devez lire l'énoncé avec votre grille de lecture en tant qu'apprenti juriste, on va dire pour le moment.
Oui. Non, faut faire... oui.
Vous devez en réalité traduire les termes de langage courant en langage juridique, avec bien sûr les termes que vous avez appris lors du cours qui a été enseigné. Donc cette année, c'est l'introduction au droit, mais le semestre prochain, ça pourrait être le droit de la famille, etc.
Oui, exercice pratique. On reprend un exercice qui figure dans les fiches de travaux dirigés. Vincent est étudiant en médecine. Donc, encore une fois, il faut faire le tri entre l'anecdotique et le pertinent. Vincent est étudiant en médecine. Pour arrondir ses fins de mois, Vincent vous explique qu'il sous-loue depuis plusieurs années à des touristes l'appartement qu'il loue depuis 2011 à Saint-Germain-des-Prés. C'est anecdotique, c'est pas anecdotique. Qu'est-ce qu'on relève là-dedans ?
Déjà, étudiant en médecine, je pense qu'on va commencer par ça. Alors, a priori, ça peut sembler anecdotique, mais ça l'est pas tant que ça, en fait.
Oui, un étudiant en médecine, ça peut aussi nous donner comme indice que Vincent est en réalité un professionnel, et un non-professionnel, pardon, et qu'il n'est pas un professionnel, puisqu'il est simplement étudiant.
Donc, peut-être que ça servira à rien, mais c'est pas mal de, voilà, de le noter.
De le relever.
Alors, ensuite, arrondir ses fins de mois, Vincent vous explique qu'il sous-loue.
La sous-location.
Oui,
et bien alors. Sous-location, existence d'un contrat. Donc d'une convention entre deux ou plusieurs parties. Ici, j'ai l'impression que ce serait entre deux parties, à tout le moins. Mais il faut faire attention, quand vous voyez un terme, à ne pas vous reporter directement au code civil.
Oui, bien
ça,
sûr.
C'est important.
C'est très important. Quand vous êtes en examen, parfois il y a des termes que vous ne connaissez pas, donc, ou vous n'avez pas l'impression que vous l'avez vu en cours, comme la sous-location ou la location. Attention, ne vous précipitez pas sur votre code civil en essayant de rechercher les règles, de rechercher la définition. Essayez plutôt de rechercher les qualifications dans votre propre cours. Donc le cours ici de Monsieur Lagarde. Vous cherchez les qualifications qui correspondent. Ici, on nous parle donc d'une sous-location entre Vincent et des touristes, donc a priori un accord, donc a priori un contrat.
Voilà, la sous-location, c'est quelque chose qu'on voit dans un cours de, je crois, 3e ou 4e année de contrats spéciaux. Vous êtes en première année, introduction, donc on cherche les qualifications de l'introduction. Et dans les qualifications d'introduction, il y a contrat, le reste, on a parlé de la sous-location, mais on n'en a pas parlé dans le détail. Donc c'est très, très, très important. Voilà. Deuxième phrase. Voilà, Vincent vous indique qu'il a entendu qu'une proposition de loi envisagerait de prochainement punir de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 euros quand même, d'amende les locataires qui sous-louent le bien immobilier qu'ils occupent sans l'autorisation de leur bailleur. Alors, réaction ?
Il me semble trois éléments importants. Je vais évoquer déjà les deux premiers. Une proposition de loi,
oui.
Ça veut dire que la loi n'est pas encore en vigueur, déjà. Et ensuite, punir de 6 mois d'emprisonnement, cela veut dire qu'il va y avoir une sanction à un comportement donné, et ce n'est pas une sanction civile, mais une sanction pénale. Donc on va avoir des règles particulières qui vont s'appliquer. Et ensuite, le troisième élément.
Oui, ensuite, on nous dit qu'il n'y a pas d'autorisation du bailleur. Donc à quoi ça vous fait penser? Ça veut dire qu'il y a de nouveau un contrat entre Vincent et son bailleur. Donc ça veut dire qu'il y a, on l'a vu en cours, une norme individuelle entre ces deux parties.
Oui, et on peut même aller plus loin en disant que l'autorisation, si elle était donnée, serait une norme individuelle. Simplement, là, on passe sur des considérations qui sont a priori un petit peu plus théoriques. Donc là, il y a quelque part un peu ce qu'on peut appeler il faut avoir un peu de nez, un peu de flair, un peu d'intuition et se dire c'est une qualification juridique, mais est-ce qu'on va forcément l'exploiter dans le cas pratique? Voilà, on le note comme ça sur le côté, on ne sait jamais. Voilà, ça peut servir. Ok. Bon, alors une fois qu'on a, vous voyez, là, on a un cas pratique relativement simple. Hein, donc on a fait les. On a, j'irais, pratiquement fait l'essentiel du travail. Simplement, à la fin, on vous pose le problème. C'est la dernière phrase, vous allez voir qu'on va la régler très facilement. Vincent est inquiet et vous demande, donc là, conseil d'amis, si dans l'hypothèse où il arrêterait immédiatement de sous-louer son appartement sans l'autorisation de son bailleur, il pourrait espérer obtenir la clémence du juge. Et alors, du coup, c'est quoi finalement la question qui est posée?
En d'autres termes, la question qui se pose, c'est est-ce que le comportement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi qui est fait par Vincent peut être sanctionné au titre de cette nouvelle loi et de ces nouvelles sanctions?
Oui, et la réponse, c'est...
Bien évidemment non, au nom du principe de non-rétroactivité de la loi pénale.
Oui, voilà. Sauf que maintenant, on va passer en phase rédaction.
Deuxième
et que qu'est-ce qu'on retient de cette phase de préparation? C'est qu'en fait, dans notre cas pratique, on a la dernière phrase qui pose la question, qui est a priori celle qui pose problème, c'est celle qui va être réglée le plus vite possible, parce qu'on aura passé du temps sur l'exposé des faits, sur les deux premiers paragraphes, c'est ce temps passé sur ce qui a priori est le moins important, qui va permettre de régler rapidement ce qui a priori est le plus important. Simplement, quand on l'écrit, il ne faut pas l'écrire de la même manière qu'on a préparé le cas pratique. Donc il va falloir le présenter. Et là, il y a un ordre de présentation qui est relativement régulier, comme on s'y prend.
Qui est relativement simple. Tout d'abord, vous faites un rappel des faits. Le rappel des faits, et là je le répète, sont seulement les faits qui sont pertinents, c'est-à-dire nécessaires à la résolution du cas pratique, et également les faits qualifiés. Mais attention, on peut avoir certains problèmes en ce qui concerne la qualification.
Oui, c'est simplement les faits pertinents,
oui.
Les faits qualifiés. Comme on expose, on a déjà la solution, donc maintenant on les connaît, les faits pertinents, on sait ce qu'il va falloir retenir. On les qualifie, sauf la petite nuance, si on s'aperçoit qu'il y a un sujet qui, sous l'angle de la qualification, est difficile. Par exemple, là, on nous dit que pour arrondir ses fins de mois, Vincent, etc., etc., pour arrondir ses fins de mois, si on avait ajouté, pour arrondir ses fins de mois, il exerce l'activité de livreur à domicile avec un vélo. Là, on pourrait dire, ah, attention, est-ce qu'il est livreur en qualité de salarié, en qualité d'indépendant? Et il y aurait un sujet de qualification. On ne vous le posera pas en première année, ce sujet de qualification, mais si vous le trouvez en un cours de troisième année, par exemple, de droit du travail, là, il faudra dire, ah, a priori, là, il y a un sujet. Donc, on va détacher cette question de qualification. Elle va suivre dans l'exposé, juste après l'exposé des faits, on va dire. On va traiter de cette question de qualification.
Une question voilà. de qualification qui est réellement très importante parce qu'elle vous permettra de déterminer quel est le régime applicable. Donc vraiment, cette question est primordiale.
Donc, exposer les faits, qualification, les deux réunis ou les deux séparés. Ensuite,
rappel de la question droit, comme on l'a fait tout à l'heure. Ensuite, nous allons évoquer ce que l'on appelle la majeure. En fait, on va procéder à un syllogisme juridique en mettant la majeure, la mineure, puis la conclusion. Au sein de la majeure, vous allez rappeler l'ensemble des fondements juridiques qui sont applicables au cas pratique. Législation internationale, interne, jurisprudence et autres sources du droit. Attention, et je tiens vraiment à le préciser, en ce qui concerne la jurisprudence. Si vous ouvrez votre code civil et que vous trouvez un arrêt qui est cité en dessous d'un article du code civil qui ressemble un peu au cas pratique, mais que vous n'avez jamais étudié ni dans votre fascicule ni par vous-même, ne le citez pas forcément. Même ne le citez pas.
Ne le citez pas.
Voilà, dans votre cas pratique, parce que vous ne savez pas quels étaient les faits de l'espèce. Ne prenez pas de risque sur ça et ne recopiez pas le code civil dans vos cas pratiques, s'il vous plaît.
Oui, oui, il y a un effet voilà, de recopiage qui est désagréable. Et en plus, si c'est quelque chose qui vous est inconnu, il est probable que vous l'utilisiez d'une manière inappropriée. Donc, les notes qui sont sous les articles, on les utilise quand on sait, on les connaissait avant, enfin, on connaît le contenu qui est rappelé par la note. Mais si c'est du nouveau, on ne peut pas prendre de risque.
Oui.
Oui. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui.
Fois qu'on a fait donc la majeure, ensuite, il faut qu'on confronte en fait la majeure au fait de l'espèce, c'est-à-dire qu'on confronte le cours, enfin les notions, au fait exactement. Donc c'est ce qu'on appelle dans le syllogisme juridique la mineure.
Et
donc,
ça peut être les données, hein,
bien
pas seulement
sûr,
les faits,
parce ce qu'on appelle aussi donc les données du cas. On va essayer de voir si les données qu'on a correspondent aux conditions qu'on vient d'évoquer plus haut dans notre majeure. Et donc dans ces cas-là, il suffit pas simplement de dire oui les conditions sont réunies, mais il va falloir justifier et détailler pourquoi les conditions sont réunies ou non.
Bon, donc juste on perd un peu de temps, mais si on reprend notre cas pratique avec Vincent là, ça donne quoi la majeure?
Alors donc on avait exposé tout à l'heure dans la majeure qu'il fallait notamment regarder si c'était des sanctions pénales. Donc, on se rend compte
La majeure, parce que la majeure, là, on va rappeler les principes. Donc, a priori, là, l'idée...
Le principe de non-rétroactivité de la loi
pénale. Oui, c'est plutôt, on est sur le principe. Donc, la majeure, c'est principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Et je pense que c'est important. Il faut l'écrire dans le cas pratique que ce principe de non-rétroactivité de la loi pénale, il a, en matière... Donc, on est en matière pénale, il a une valeur supralégislative.
Voilà.
Donc, il est particulièrement impérieux. Et même si on ne fait pas une dissertation, c'est un cas pratique, c'est important de rappeler le principe et de rappeler, je ne sais plus quels sont les numéros des articles et de la Convention et de la Déclaration
des droits de l'homme, DDHC 189, est présent aussi dans le code pénal. Dans le code pénal
et ça, il faut le dire pour l'examen, mais dans la pratique aussi. Quand on rappelle un principe qu'on applique, c'est important de préciser sa source, sa vigueur et son importance. Bon, un texte comme ça, il est évident qu'on ne peut pas le méconnaître. Ensuite, la mineure. Ouais. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la mineure?
Donc, dans la mineure, on essaie de regarder si les fondements qu'on vient d'évoquer correspondent à nos données, à nos faits. Donc, on va confronter les deux. Donc, on va d'abord regarder, par exemple, pour Vincent, est-ce qu'il y avait des sanctions pénales? Et dans le cas, on nous dit dans le cas pratique que la loi envisagerait de punir de 6 mois d'emprisonnement avec une amende. Donc, c'est effectivement une sanction pénale. Dans ces cas-là, on va appliquer le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Or, on nous dit que Vincent s'inquiète pour des activités passées, qui seraient donc dans le passé par rapport à cette loi future. Dans ces cas-là, on applique notre principe, et notre principe, c'est la non-rétroactivité. Surtout qu'on aura vu dans la majeure que le principe de non-rétroactivité pénale ne s'applique pas quand la loi est plus douce. Or, ici, la loi paraît plus dure, donc elle ne s'appliquerait d'autant pas au fait que décrit Vincent. Dans ces cas-là, on a confronté ici, dans notre mineure, nos faits, enfin, nos données, nos fondements.
C'est, Nicolas, si on disait données tout à l'heure et pas fait, c'est qu'à un moment, on est obligé de prendre parti sur la nature de la sanction.
Oui.
Et donc là, la sanction, ce n'est pas un fait. Donc
bien
on
sûr.
Prend une position sur un fait, c'est dire ça se passe. Ce que fait Vincent, la sous-location de Vincent est en fait antérieure à l'hypothétique entrée en vigueur de cette proposition de loi, ça c'est du fait. Et puis il y a du droit, c'est de dire cette sanction, il faut la qualifier, c'est une sanction pénale. Donc on est bien dans les sanctions pénales visées par le principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Bon. Mais tout ça, il faut le dire. Voilà. Et c'est très important que de bien comprendre que toutes ces choses-là, il faut les écrire, que si elles ne sont pas écrites, et que si on se contentait de dire « Vincent peut dormir tranquille », eh ben ça vaut deux. Voilà. Par contre, nous, tout ce qu'on a dit, Bon, allez, on se met 20 sur 20. Voilà. Bravo. Non, c'était pour... On se met 18, il faut se laisser une marge de manœuvre.
Et bien voilà. Sûr, après bien oui. Sûr, la mineure, il faut bien sûr conclure.
Ah oui,
bien
bah sûr oui c'est
dire
oui.
Que les conditions sont donc bien réunies et que donc Vincent peut donc dormir tranquille. Et là, on a 20 sur 20, plus 18.
Voilà. Et bien, pour avoir 20 sur 20, il faut gérer son temps. Un petit point important, petit conseil, temps de préparation, temps de rédaction, les patates.
Un tiers à peu près, je dirais, sur le temps de préparation et de tiers, parce qu'en fait, on attend vraiment de vous une restitution des mécanismes juridiques et quelque chose de très structuré. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour l'introduction des fondements juridiques, on attend de vous la formule « en droit, virgule », et vous récitez les fondements juridiques. Pour l'introduction de la mineure, or, en l'espèce, vous restituez votre mineure. Et pour la conclusion... Alors, au début de votre copie, ce sera par conséquent. À la fin, vous n'aurez plus de temps, ce sera juste donc. Donc voilà, okay. On attend de vous que ce soit structuré. Moi, je conseille même à mes étudiants de sauter des lignes, de faire des NEA. On veut voir la méthodologie réellement ressortir. Donc prenez du temps sur la rédaction.
Oui, un tiers, voilà. Ça peut être, voilà, c'est pas dans le marbre, mais c'est quand même, c'est prudent. Oui. Sachant que quand on écrit, la pensée se révèle aussi. Donc on peut s'apercevoir au début de l'écriture qu'on n'est peut-être pas tout à fait dans la bonne direction. Donc il faut avoir le temps de se reprendre. Juste un dernier mot avant de passer aux commentaires. Le cas pratique, c'est ce que vous ferez dans la vie pratique. Les avocats font des cas pratiques, les magistrats font des cas pratiques. C'est la même méthode, c'est un tout petit peu plus compliqué. En ce sens que le travail de qualification qui permet d'identifier les faits pertinents, les faits qui ne sont pas, il faut le faire non seulement sur le récit qui est livré par le client, par exemple, mais également sur toutes les pièces qui sont produites. Et ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça reste la même méthode. Vous l'avez appris aujourd'hui. Et ce sera la même que vous appliquerez jusqu'à la fin de votre vie juridique. Alors, on s'est mis une très bonne note au cas pratique. On va essayer de faire aussi bien pour le commentaire, seconde épreuve emblématique des études de droit. Le commentaire... L'épreuve incontournable des études de droit, qui a deux caractéristiques. Elle est très difficile, et a priori, quand on est en pratique, elle paraît parfaitement inutile. Alors on va essayer de voir ensemble, de la rendre moins difficile qu'elle n'est, et on vous dira à la fin pourquoi elle est très utile en pratique. Alors, on va raisonner essentiellement sur le commentaire d'arrêt, et on va raisonner sur un arrêt de la Cour de cassation qui est a priori le type de document, le type de décision qu'un étudiant est appelé à commenter dans ses premières années de droit. On peut commenter d'autres textes, des articles de loi, des textes de doctrine, mais je dirais qu'on cale la méthode sur l'arrêt et sur l'arrêt de la Cour de cassation. Donc toujours la même chose, une phase de préparation, une phase de rédaction. Dans la phase de préparation, de temps comprendre ce qu'on lit et trouver des éléments de commentaire. Comprendre. Qui veut démarrer ?
Alors déjà pour comprendre, il faut tout d'abord réussir à identifier qui parle dans l'arrêt. Parce qu'il y a plusieurs protagonistes qui vont intervenir. Et avant même de savoir qui parle, à mon sens, c'est plus facile de savoir si c'est un arrêt de rejet ou un arrêt de cassation, car l'organisation des arrêts, en fait, diffère entre ces deux arrêts. Mais en tout cas, les quatre protagonistes qui peuvent parler, c'est d'abord, en quelque sorte, personne, parce qu'on va d'abord avoir un exposé neutre des faits. Ensuite, on peut avoir soit la cour d'appel qui parle, c'est-à-dire l'exposé de la solution de la cour d'appel, ça va plutôt être donc les arrêts de cassation, soit on va avoir l'exposé des moyens, c'est-à-dire les arguments des parties, et ça, ce sera plutôt dans les arrêts de rejet. Et à la fin, on aura la solution de la cour de cassation, et c'est donc la cour de cassation qui va parler, et on va savoir que c'est elle qui parle, car on aura « mais attendu que » ou « attendu que », et ensuite on aura donc le dispositif où la cour de cassation décide de casser ou de rejeter les moyens des parties.
C'est essentiel, et c'est une des erreurs qu'on trouve assez souvent dans les copies, normalement de première, deuxième année, c'est qu'on croit que la cour de cassation, enfin on fait dire à la cour de cassation quelque chose qui en réalité est dit par les juges du fond ou par les parties. Et ça, ce type d'erreur, pour le coup, c'est éliminatoire, quoi. C'est rédhibitoire. Donc, qui parle? Que dit-il? Quoi?
Oui, en d'autres termes, quel est l'objet du litige dont il est question dans cet arrêt? Alors, ce que nous vous conseillons, c'est de lire une première fois l'arrêt qui vous est donné pour voir si vous comprenez bien l'enjeu de cet arrêt. Si vous comprenez dès votre première lecture, ben, c'est parfait. Sinon, ce que nous pensons qu'il est nécessaire de faire, c'est de relire attentivement l'arrêt et vous souligner les mots qui vont vous poser problème. Là où, entre guillemets, ça coince.
Il faut formaliser son incompréhension.
C'est ça, ça peut vous aider à la résolution de votre problème.
Le fait d'écrire ce que je n'ai pas compris permet souvent de le dissoudre. Pas toujours, mais ça, c'est important.
Si la simple formalisation de votre problème vous permet de résoudre ce dernier, alors c'est bon. Cependant, si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, vous pouvez vous baser sur le contexte de l'arrêt, c'est-à-dire lire attentivement, voir ce que vous avez compris, voir ce que vous avez compris après le passage qui vous pose difficulté, et souvent, ça va vous aider à résoudre ce qu'il y a au milieu.
On voit tout ce qu'on a compris. Voilà. L'avant, l'après, généralement, on va réussir à faire le pont entre l'avant et l'après, et on va résoudre la difficulté. Donc, il faut... C'est très concret. Et puis peut-être que c'est là où est la difficulté que se trouve le cœur du commentaire.
Oui, exactement.
Ce qui permet de passer au deuxième temps de la préparation, qui est le temps de commentaire. Comment on fait pour dire plus que ce que dit l'arrêt? Parce que c'est ça qu'on attend de vous. On dit souvent on attend une critique de l'arrêt. Alors une critique, ce n'est pas forcément dire l'arrêt est bon ou l'arrêt est mauvais. Une critique, c'est une prise de distance.
Prise de recul.
Une prise de recul pour apporter quelque chose au texte et voir ce qu'il dit sans le dire et ce qu'on peut en penser. Et je dirais qu'il y a deux choses peut-être pour arriver à mettre en forme et à trouver des éléments de commentaire. C'est se dire, je vais essayer de mesurer l'importance et de mesurer la cohérence. Et je pense que c'est deux petites boussoles qu'on peut mettre en avant. Mesurer l'importance, qui veut démarrer?
Je peux démarrer sur l'importance. Vous avez plusieurs indices qui vont se trouver notamment à la périphérie de votre arrêt, qui vont vous donner des indications sur l'importance de ce dernier. Notamment, quelle juridiction, plutôt quelle formation de la Cour de cassation a rendu l'arrêt? Est-ce uniquement une des chambres? Est-ce une chambre mixte? Ou est-ce l'assemblée plénière? Suivant la formation qui a été mise en place pour rendre cet arrêt, vous aurez une idée de rayonnement de votre arrêt. Ensuite, vous devez regarder le visa, s'il y a un attendu de principe, également la date à laquelle a été rendu votre arrêt. Est-ce que le cours d'amphithéâtre vous parle des conséquences qu'a pu avoir cet arrêt, notamment au sein de la jurisprudence, de la législation, etc. Et une dernière chose, c'est est-ce que l'arrêt a été publié au bulletin ou non de la Cour de cassation.
Marc l'impensé. Aussi, je trouve important aussi dans le visa, s'il y a écrit « vu le principe », déjà, ça c'est un élément, ça veut dire qu'on est en présence d'une règle qui a été créée par la jurisprudence sans que celle-ci soit rattachée à un texte. Ça, il faut le dire, et c'est déjà du commentaire, c'est déjà un discuté de dire « cet arrêt est important sous l'angle des sources du droit ». Vous voyez, en allant puiser dans son cours et en faisant ce travail de lecture, on arrive déjà à apporter des éléments. Alors, ça, c'est l'importance de l'arrêt. Mais il y a aussi la mesure de la cohérence. Alors là, ça devient un peu plus compliqué, mais Ingrid, on en a parlé.
Oui, alors pour comment faire pour savoir si justement un arrêt est important, comment avoir des éléments de commentaire, il faut réussir à savoir si l'arrêt est cohérent. Alors comment on fait? Vous essayez de vous souvenir de ce que vous avez appris en cours sur le thème de l'arrêt et vous essayez de voir si ce que dit la Cour de cassation correspond à ce que vous avez appris. Si, par exemple, la solution vous paraît totalement conforme à ce que vous avez appris en cours, ça veut dire que peut-être c'est un arrêt simplement d'espèce, un arrêt qui va vous faire réfléchir sur une notion que vous avez déjà appris, ou alors peut-être que des conditions sont rajoutées à ce que vous avez appris, mais il se peut aussi que l'arrêt soit incohérent par rapport à ce que vous avez appris. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas appris votre cours, que vous vous trompez forcément, ça veut peut-être dire que cet arrêt est peut-être nouveau et donne un nouvel apport à un thème que vous avez vu en cours. Donc ça peut dire ça souvent quand l'arrêt est récent. Ou alors, si l'arrêt est ancien, peut-être que c'était l'ancienne solution par rapport à ce que vous avez appris en cours. En tout cas, tous ces éléments donc de confrontation de votre cours à la solution de l'arrêt vous permettent de savoir s'il est en quelque sorte cohérent ou incohérent avec le reste de la jurisprudence, avec les textes du Code civil. Et là, ce sont des éléments de commentaire très importants.
Oui, et là, on a un bon exemple. C'est un arrêt de la première chambre civile du 14 mai 2019 qui a donné lieu à une épreuve écrite et dont on trouve facilement trace. On voit très bien comment, en mettant en œuvre cette méthode, en ne mobilisant que ses connaissances de cours, en n'allant rien chercher ailleurs. Et c'est important que les étudiants comprennent qu'on n'attende pas d'eux qu'ils inventent un commentaire, que le commentaire va se faire à l'aide de leur connaissance. Eh bien, dans cet arrêt du 14 mai 2019, la Cour de cassation pose que ce qu'elle appelle les règles jurisprudentielles, ces règles jurisprudentielles échappent à un contrôle de constitutionnalité. Et donc la Cour de cassation n'a pas à transmettre une question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur une règle jurisprudentielle. Le simple fait, ça c'est ce que dit l'arrêt, le simple fait de relever ça, on doit se dire qu'il y a quelque chose qui est un peu bizarre là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais ce qui était bizarre et que vous pouvez totalement voir avec vos connaissances, c'est qu'on avait vu lors du cours que dans la hiérarchie des normes, notamment normalement, le Conseil constitutionnel vérifie la constitutionnalité d'une solution apportée par la Cour de cassation qui est basée sur normalement les textes du Code civil. Or, là, il se trouve que l'arrêt de la Cour de cassation décide de ne pas transmettre la QPC en disant que finalement, elle ne fait l'élément qui est critiqué est un élément de sa jurisprudence, qui n'est pas rattaché à des textes. Et donc, ça veut dire que finalement, cette jurisprudence qu'elle a créée, cette règle jurisprudentielle, serait hors de la hiérarchie des normes. Or, ça, c'était déjà.
Mais déjà, juste, je rebondis, mais il y a une première chose, c'est qu'on dit, tiens, ça veut dire qu'il y a des règles créées par la jurisprudence qui, a priori, ne se rattachent à aucun texte. Bon, normalement, il y a un modèle, c'est vu le principe. Alors, on a vu ça, on a vu le principe pour la théorie des troubles anormaux de voisinage, on a vu pour l'enrichissement sans cause, c'est des choses qu'on a mentionnées. Là, il n'y a rien. Bon, c'est pas de ça dont il est question dans cet arrêt. Donc, déjà, première nouveauté, il existe des règles jurisprudentielles qui, apparemment, ne sont pas des principes, sont quand même des règles d'interprétation d'un texte, mais qui sont, semble-t-il, détachables du texte que pourtant elles interprètent. Donc, première bizarrerie. Et en disant ça, on n'a rien dit de plus que ce qui était dans le cours. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des étudiants qui ont composé et qui ont eu des bonnes idées en puisant dans leur cours. Et vous avez un bon exemple, Maëva.
J'ai un de mes étudiants, je me souviens plus exactement, qui s'est rapporté à la lettre de l'article 61-1 de la Constitution, et qui en a fait une interprétation rationnelle. L'étudiant, de façon générique, m'a expliqué que la lettre du texte ne se référait qu'au texte législatif, et donc qu'une règle jurisprudentielle était, suivant l'interprétation rationnelle de cet article de la Constitution, forcément exclue du contrôle opéré par le Conseil constitutionnel. Et donc, il ou elle, l'étudiant, en a conclu que l'arrêt était respectueux de la hiérarchie des normes.
Voilà. Ce n'est pas forcément la bonne solution, mais c'est la bonne attitude. Voilà. C'est ça qu'il faut faire dans le travail de commentaire. Et donc, cet étudiant peut conclure en disant que c'est une bonne solution, une solution logique et conforme à une interprétation rationnelle, peut-être même littérale, de l'article 61-1 sur la QPC. Vous avez trouvé autre chose où,
Oui, j'avais aussi un étudiant ou une étudiante pareil qui avait dans sa copie expliqué que justement, cette règle jurisprudentielle, il était très étonné qu'une règle jurisprudentielle puisse être créée seulement par la Cour de cassation détachée des textes, alors que dans le cours, il y avait bien écrit que le juge ne peut pas se substituer au législateur, et c'est aussi bien sûr une règle inscrite dans le Code civil, mais que le juge ne peut pas prendre la place du législateur. Donc il était très surpris par cet arrêt, et donc là aussi c'était des éléments de commentaire, mais qu'il avait simplement trouvé en lisant l'arrêt, et en utilisant ses connaissances de cours.
Oui, il avait trouvé même mieux que ça, hein, parce qu'il ajoute, quand on en a parlé tout à l'heure, ce que vous disiez qui était quand même intéressant, c'est qu'il ajoute en disant que c'est quand même d'autant plus curieux qu'en créant ses propres normes, la Cour de cassation considère qu'elles sont hors hiérarchie. Donc on a une espèce de norme qui est sans légitimité démocratique et qui est hors sol, qui échappe à toute hiérarchie. À quoi on peut répondre en disant, mais tout ça, ce sont des choses qui sont dans le cours. On n'a rien dit de plus. Simplement, là où on voit la pertinence du commentaire, c'est dans la maîtrise de ces éléments, notre capacité à jouer avec
à les restituer, à les réorganiser. Oui. Et là, je pense que les deux exemples qui vous ont été donnés par Ingrid et par moi-même, c'est que ce n'est pas forcément la solution la plus importante, mais le cheminement vers cette solution, comme dans le cas pratique, ce que nous vous expliquions tout à l'heure. Là, une fois encore, c'est la justification qui est la plus importante.
Voilà. Après, on rédige. Phase de rédaction, oui. Donc là, il y a un passage obligé, c'est l'introduction en forme de fiche d'arrêt.
Exactement.
Alors, rapidement, parce que là, on l'a dit, enfin, un petit...
Oui, normalement, j'ai vu la méthodologie en séance de travaux dirigés, mais je répète rapidement les étapes. Première étape, la phrase d'accroche, qui regroupe la date, la juridiction, ainsi que le thème général de l'arrêt, les faits, la procédure, les thèses en présence ou prétention des parties, ça va dépendre des manuels, vous allez avoir différentes formulations. La question de droit et ensuite la solution qui est apportée par la Cour de cassation.
Et la suite, Ingrid ?
Et ensuite, une fois que vous avez donc fini cette fiche d'arrêt, vous allez annoncer votre plan. Alors attention, le plan en droit, c'est très important, il est apparent dans la copie. Ça veut dire que vous devez écrire dans la copie vos titres. Le plan classique en droit, c'est deux parties et deux sous-parties, et donc qui doivent être écrites. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut que votre plan soit simple. C'est important de faire des intitulés simples, mais qui permettent à votre correcteur, lorsqu'il lit le plan, de comprendre « Ah, cette personne a compris l'arrêt, a compris la valeur de l'arrêt, a compris qu'il fallait commenter ». Mais attention, les titres en droit, il faut essayer, en tout cas vraiment essayer en première année, de ne pas conjuguer les verbes. C'est-à-dire que ça doit être des titres qui sont sans verbes conjugués. Bien sûr, plus vous en faites, plus vous trouverez des titres simples, compréhensibles et plus vous vous entraînez.
Voilà. Si vous dites « la Cour de cassation dans cet arrêt pose un principe et une exception », première partie le principe, deuxième partie l'exception, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Voilà. Sur les deux parties, alors, sur un arrêt, c'est un petit peu moins… Si l'arrêt résout trois questions, cet arrêt nous apporte trois solutions à trois questions, ça peut faire trois parties. Voilà. Donc le deux parties, deux sous-parties, peut-être moins passage obligé, mais en tout cas, plan apparent. Et intitulé.
Ce qui compte, je pense, c'est la fluidité de votre propos.
Oui,
on voit qu'il y a vraiment un fil conducteur. C'est pour ça, notamment, que vous avez l'obligation de faire des transitions et des chapeaux au sein de vos développements. C'est vraiment pour que le correcteur suive. Et ce qui compte, c'est qu'on puisse suivre à chaque étape votre raisonnement. Donc, tant dans la fiche d'arrêt où pour chaque étape, vous devez aller à la ligne, un alinéa, c'est important parce que ça montre que vous connaissez la méthodologie. Vous devez faire de même lors de vos développements.
Voilà. Et donc, dans notre arrêt du 14 mai 2019, on pouvait tout à fait faire quelque chose de très simple, c'est-à-dire c'est un arrêt important. C'est un arrêt critiquable. Voilà. Ça fait de... Il y aura peut-être une deuxième partie plus grosse que la première. Ce n'est pas très grave. On suit et on a compris que vous avez quelque chose à nous dire.
Et ce qui est très important aussi pour le commentaire d'arrêt en droit, c'est qu'il n'y a pas... vous n'avez pas besoin de faire de conclusion. Ça ne veut pas dire que le 2B est une conclusion. Bien au contraire. On n'a juste pas besoin d'avoir de conclusion dans le commentaire d'arrêt. C'est la spécificité de cet exercice.
Pas de conclusion non plus dans la dissertation, qui est le troisième et dernier exercice qui figure dans le... Oui, je vous vois froncer les sourcils.
Non, j'avais juste une toute petite précision à apporter.
Vous gênez pas.
Mais c'est très important pour les étudiants. Quand vous lisez les arrêts de la Cour de cassation, ça peut vous sembler obscur et compliqué, surtout quand vous êtes en première année. Sachez qu'il y a une réforme qui a été mise en place par la Cour de cassation sur la rédaction des arrêts qui vise à les rendre plus lisibles et intelligibles. Donc, pas de panique.
Voilà. Oui, et alors,
il va y avoir des changements.
Un dernier point, autre réflexion, ça sert à quoi tout ça? Parce qu'effectivement, dans la pratique, vous ne ferez plus de commentaires d'arrêt. Donc, pourquoi est-ce qu'à l'université, on vous embête à faire des commentaires d'arrêt que vous ne ferez plus quand vous serez dans la pratique? Eh bien, on a bien raison de le faire parce que commenter un arrêt, c'est triturer un texte. Voilà, c'est lui faire parler, lui faire dire le contraire, le mettre à l'envers, le mettre à l'endroit. C'est ce que fait n'importe quel juriste avec n'importe quel document écrit. Donc, c'est ça que vous apprenez. C'est le métier de juriste que vous apprenez en commentant des arrêts. C'est un peu moins vrai pour la dissertation.
Oui.
Là, je crois qu'on peut y aller. Troisième partie, la dissertation. Dissertation, un exercice un peu plus rare. Il y en a toujours un, généralement, en fin d'année, parce qu'il faut proposer un sujet théorique. Et je sais très bien que vous percevez que, a priori, c'est peut-être pas celui dont on attend, que vous le choisissiez, qu'on vous attend plus sur l'exercice pratique. En fait, ça tient au fait que la dissertation préfigure, dans la pratique, un exercice qui est sans doute l'un des plus attractifs, mais qui n'est pas le plus fréquent. En fait, il y a deux exercices qui ressemblent à une dissertation. C'est l'intervention dans un colloque. Ça, c'est plutôt un métier de professeur. Bon, il n'y a pas que les professeurs qui interviennent dans les colloques. Et sinon, dans la pratique, ça peut être la grande plaidoirie, où on va décliner la thèse de l'innocence de l'individu, une telle thèse, et on va faire entendre cette mélodie tout au long de la plaidoirie qu'on soutient. Ce sont des beaux exercices, ce ne sont pas les plus fréquents. Donc, ce qui fait que la dissertation n'est pas l'exercice sur lequel on insiste le plus dans les études de droit. Maintenant, est-ce que, ayant dit ceci, il faut vous dire « Ah, le sujet théorique, je ne le prendrai jamais, je vais me faire mal voir ». Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Maëva, Ingrid ?
Donc, je pense que le plus important... Oui, quel conseil. Le plus important est qu'en sortant d'un partiel, vous n'ayez pas de regrets. Donc, si lorsque vous lisez le sujet théorique, vous êtes inspiré, vous voyez les enjeux, les intérêts de ce sujet et voir peut-être un plan qui vous paraîtrait logique, pertinent, surtout. Alors, je n'ai qu'une chose à vous dire, allez-y.
Ingrid.
N'ayez pas de regrets.
Moi, je me rattache à ce que dit Maëva, mais attention quand même, attention avec la dissertation. Il faut que quand vous lisiez le sujet, vous ayez déjà tout de suite une appétence pour celui-ci, que vous ayez déjà des idées qui vous viennent à l'esprit dans les quelques premières minutes. Vous ne pouvez pas prendre 15 minutes pour hésiter entre le sujet pratique ou le sujet théorique. Donc, il faut que le sujet vous attire tout de suite. Et surtout, il faut absolument que vous ayez toutes les connaissances nécessaires, parce que la dissertation, c'est aller au-delà de ses connaissances. Donc, bien sûr, le B.A.B.A., c'est de connaître par cœur et vraiment maîtriser complètement son cours sur le sujet de la dissertation.
Très bon sur le cours, parce qu'on a des attentes sur une dissertation. Mmh. Qu'est-ce qu'on attend dans une bonne dissertation?
On attend que vous problématisiez le sujet déjà.
Oui.
C'est-à-dire que vous ne fassiez pas une restitution uniquement de vos connaissances, mais bien que vous les agenciez de manière pertinente et pour le moins intelligente.
Oui. Il faut en fait que lorsque vous êtes en train de regarder le sujet, vous arriviez à trouver les difficultés de celui-ci. Donc il y a plein de façons de trouver les difficultés, en vous aidant des définitions, en vous rappelant de votre cours, on aura plein de méthodes qu'on va vous exposer, mais il faut vraiment problématiser, trouver la difficulté, trouver les points de choc du sujet pour trouver en fait des éléments importants de dissertation, des éléments sur lesquels vous allez réfléchir.
Problématique et rigueur. Voilà.
Oui,
on a donné il y a 2 ans comme sujet, le vivre ensemble. La problématique qui vient assez vite, c'est mais comment cette notion qu'on utilise à toutes les sauces dans tous les débats publics peut intéresser un juriste? Comment ça se fait? Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, de la rigueur, on ne veut pas vous entendre sur le vivre ensemble, sur il ne faut pas rouler en trottinette sur les trottoirs, c'est bien de ne pas doubler son voisin. Non, ce n'est pas ça le sujet. Si on vous interroge sur le vivre ensemble, on veut de la rigueur. On veut savoir ce que dit la Cour européenne sur le sujet, pourquoi elle l'a dit, dans quelles conditions, quel rapport avec les bonnes mœurs. Voilà, on veut de la matière. Et dernier point, si vous vous contentez de réciter le cours, vous êtes sûr que vous êtes en dessous de la moyenne. Voilà, donc il faut rigueur, problématique et à chercher. Comment on arrive à tout ça? Alors il y a des méthodes assez rigolotes là, qui sont... qui paraissent très panier de la ménagère, mais qui fonctionnent très bien.
Alors,
vous, c'est quoi là, votre méthode?
C'est la méthode des 3 feuilles. C'est une méthode qu'on m'a enseignée en 2e année. La méthode des 3 feuilles, c'est sur la première feuille, tout d'abord, vous mettez toutes les idées qui vous viennent à l'esprit lorsque vous lisez le sujet, c'est-à-dire les intérêts, vraiment tout ce qui vous passe à l'esprit à ce moment-là. Sur la 2e feuille, vous allez regrouper ces éléments en différents groupes, en idées plus générales. Vous passez à un stade supérieur. Et sur la 3e feuille, tout simplement vous apparaître votre plan. Quand je dis apparaître, c'est là que vous allez le déduire des éléments précédents. Il n'y a pas d'apparition soudaine. Vous allez le déduire des éléments précédents. Et c'est une méthode qui fonctionne.
Ingrid, vous, c'est pas les feuilles, c'est...
Alors, c'est une méthode qui est très similaire. C'est ce que j'appelle le tour 360. C'est-à-dire que quand vous voyez le sujet, il faut essayer au stade du brouillon de réfléchir à tous les éléments de cours, tous les éléments de réflexion que vous inspire le sujet. Il faut tout mettre à plat sur un brouillon et ensuite, une fois que vous avez fait tous ces éléments, vous allez réussir en fait à les regrouper, à avoir des éléments de problématique, à avoir des éléments de choc, peut-être même avoir des qualifications, des conditions qui vont ensemble, tous des éléments qui concernent la notion, le régime. Et ensuite, une fois que vous avez trié tous ces éléments de ce tour 360, le plan aussi va arriver. Car le plan est vraiment la réponse en fait à la problématique.
Oui, moi j'appelle ça, mais si on fait tous la même chose, c'est ça la méthode des patates. Voilà. Donc on met ces idées, puis on essaye de voir celles qui se regroupent assez bien, et on voit les gros paquets. Généralement, on finit toujours par avoir 2 gros paquets, et qui vont faire les 2 sous-parties les plus importantes du plan. Et en voyant l'intérêt qu'on trouve à tel ou tel paquet, on finit par trouver sa problématique. Tout ça pour dire qu'en réalité, en pratique, ce qui est le plus important se trouve en dernier. Voilà. C'est-à-dire que la problématique apparaît une fois qu'on a mis sur le papier toutes les contenus et les idées qu'il suscite. Et les choses se forment avec une certaine, de manière assez impressionniste, mais néanmoins très rigoureuse à la fin. Et donc il faut ce courage de s'engager dans une démarche qui, a priori, est un peu tâtonnante au début et la bonne idée survit. Comment on écrit ? Juste 2-3 petites choses très importantes.
Par rapport au plan, 2 mots d'ordre, clarté, simplicité, je pense.
Oui.
Précision.
Il ne faut pas oublier surtout que la dissertation est un élément, c'est un exercice de rigueur, un exercice où vous devez faire une démonstration juridique. Vous ne devez pas simplement dire des généralités, des banalités sur le sujet. Il faut vraiment construire un raisonnement. Donc, il faut être très, très clair, très, très rigoureux et surtout comprendre ce que vous dites et faire comprendre vos idées à votre correcteur.
Oui, et donc aussi, différence avec les dissertations de philo, en droit, plan apparent. Le plan privilégié, ce n'est pas une absolue obligation, mais c'est quand même les deux parties. Et des intitulés brefs et pas de conclusion. Ouais. Et la conclusion
de tout ceci.
D'aujourd'hui. Conclusion d'aujourd'hui, ben on espère que tout ce qu'on vous a dit sera très utile pour vos épreuves de demain, mais également pour les épreuves de la vie professionnelle, et que ce qu'on vous a dit aujourd'hui vous servira dans votre vie de juriste, et peut-être aussi dans votre vie de non-juriste, par la rigueur que vous aurons apporté tous ces exercices. Merci infiniment, à très bientôt, et au revoir.
Au revoir.
Au revoir.